Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Laurent Lardy, député PS des Bouches-du-Rhône, président du groupe d'amitié France-Algérie, membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et conseiller municipal de Marseille. Marseille où vous êtes en ce moment, Laurent Lardy, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous présidez le groupe d'amitié France-Algérie, l'Algérie où des incendies meurtriers ont ravagé de nombreux secteurs de l'Est et du Nord du pays. Les dégâts sont considérables, le bilan est très lourd. Cela rappelle ce qui s'est passé en 2023 dans le pays, cet été meurtrier de 2023. Alors Emmanuel Macron a apporté lundi le soutien de la France à l'Algérie. Il a fait part de la disponibilité de Paris pour aider le pays. C'est un geste que vous saluez de la part du président de la République ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que de toute façon, on a besoin de coopération. On voit que que la coopération sur la question des incendies, maintenant des fameux méga-feux, est de plus en plus étroite au niveau des autorités européennes. Je trouve qu'effectivement, c'est une bonne initiative de la part du président de la République de proposer cette coopération. Et je parle bien de coopération. Je parle de coopération parce que je pense qu'effectivement, la France peut aider l'Algérie, mais je pense que l'Algérie peut aussi aider la France. Dans la mesure où aujourd'hui ce qui se passe en Algérie est une conséquence directe du changement climatique, du point de vue de l'intensité des incendies qu'il y a, et que nous avons beaucoup à apprendre des Algériens du point de vue de la manière avec laquelle eux gèrent ces températures tout à fait inhabituelles, ces assèchements, etc. J'en veux pour preuve la dernière étude qui date d'il n'y a pas très longtemps d'un organisme international qui faisait des projections, si vous voulez, un petit peu pédagogiques pour les gens, pour leur expliquer les évolutions du climat dans le monde, et où il y avait une donnée, moi, qui m'a frappé, c'est de considérer que en 2050, Marseille devrait avoir à peu près le climat qu'il y a aujourd'hui à Alger. Donc aujourd'hui, s'inspirer de la manière avec laquelle Alger gère ses températures, ses excès de température, peut être plein d'enseignements pour une ville comme Marseille qui doit se préparer à affronter le même type de climat dans quelques dizaines d'années.
Et là, vous parlez d'Alger, vous pourriez parler de la même manière, par exemple, de la Tunisie ou du Maroc, qui sont habitués à ces températures caniculaires. La France aurait à apprendre de ces pays.
Oui, bien sûr, puisque, si vous voulez, l'un des grands défis du changement climatique, c'est l'adaptation. Et cette adaptation, nous savons aujourd'hui qu'il va falloir la faire, qu'il va falloir trouver des moyens budgétaires pour la faire, et qu'il y a aussi à trouver des solutions les plus économes possibles. Et quelque part aujourd'hui, en France, vous savez, on est habitué au débat dans lesquels tout à coup on dit on a 12 canadaires, il nous en faut 50. On sait très bien que la France n'a pas les moyens aujourd'hui d'acquérir 50 canadaires ou 40 canadaires et surtout de les servir, c'est-à-dire de les entretenir, d'avoir le personnel qu'il faut, etc. Donc il faut aussi s'inspirer de méthodes qui sont mises en place dans un certain nombre de pays pour arriver à lutter efficacement contre les conséquences du changement climatique. Là, on parle des incendies, qui est un exemple, mais à moindre coût, parce que nous n'aurons probablement jamais les moyens de mettre toute la technologie, tous les moyens à disposition, parce que, on le sait, et puis c'est le débat actuellement, les moyens de l'État sont quand même budgétairement limités.
Et sur cette question, précisément en Algérie, la coopération entre la France et l'Algérie n'existe pas pour le moment.
Alors non, elle n'existe pas officiellement. Je sais qu'elle existe de toute façon à bas bruit sur un certain nombre de sujets. Je sais un sujet qui concerne par exemple Marseille et la baie d'Alger, c'est le problème des posidonies, vous savez, ces algues qui fournissent beaucoup d'oxygène en Méditerranée et qui se sont raréfiées sur les côtes françaises, qui se sont aussi raréfiées sur les côtes algériennes, et je sais qu'il y a de la coopération scientifique qui existe aujourd'hui sur ces sujets, c'est-à-dire des échanges d'expériences. Je sais qu'on est en train, nous, de cultiver la posidonie à Marseille, de l'utiliser, de la redéployer dans la baie de Marseille. Je sais qu'il en est de même dans la baie d'Alger et qu'il y a des coopérations qui existent à ce niveau-là. Mais comme toujours, on le sait, avec les difficultés de relations diplomatiques qu'il y a entre nos deux pays, tout ça se fait quand même à bas bruit avec des gens qui échangent, mais je dirais dans la tradition aussi scientifique. Les scientifiques ont toujours continué à échanger malgré les tensions qu'il peut y avoir entre les pays.
Voilà, les relations ont toujours été là entre les deux peuples, entre également les dirigeants des entreprises des deux pays. C'est important, vous le soulignez, c'est important. Vous présidez le groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale, Laurent Lardy. Comment vous accueillez le souhait du président algérien de rétablir l'application de la peine de mort contre les pyromanes? L'Algérie observe un moratoire sur la peine de mort capitale depuis 1993. En clair, elle n'est pas appliquée. Et là, le président algérien dit vouloir l'appliquer de nouveau.
Oui, je le regrette. Je le regrette parce que la peine de mort, dans tout temps et toute époque, il y a des événements qui peuvent justifier pour certains le fait d'établir ou de rétablir la peine de mort. Je pense que la peine de mort n'est jamais une solution. Et que l'un des grands progrès de nos démocraties aujourd'hui a été, pour beaucoup d'entre elles, de supprimer tout simplement le recours à cette peine de mort.
C'est un principe aussi, le fait d'être opposé à la peine de mort. Vous estimez que la justice ne doit pas se mettre au même niveau que les criminels?
Oui, c'est ça. La justice n'a pas à tuer. La justice, elle a à punir. Et une fois de plus, on regarde, puisque nous, on a les mêmes débats en France sur d'autres sujets. Tout à coup, quand vous avez le sujet extrêmement grave, des violences faites aux femmes et aux enfants, j'ai encore vu effectivement un certain nombre de déclarations au début de l'été souhaitant le rétablissement de la peine de mort sur les crimes vers les enfants du moment où ils étaient répétés.
Oui, donc, notamment de la part de Nicolas Dupont-Aignan, qui l'a exprimé de manière très ferme.
Ouais. Absolument, absolument, oui. Absolument.
Alors, les relations franco-algériennes ont traversé une grave crise diplomatique ces dernières années. Avez-vous le sentiment qu'elles sont en voie aujourd'hui de réchauffement? Il y a eu des signaux tout de même ces derniers mois.
Oui, il y a eu des vrais signaux. Je dirais que il a fallu qu'on sorte de la parenthèse Retailleau. Enfin, la parenthèse Retailleau. Je précise quand même que le président de la République lui-même avait pris quand même des positions en particulier sur le Sahara occidental, qui ont pu effectivement provoquer l'amorce d'une crise diplomatique. Mais quand je compare le même événement qui a eu lieu avec un peu décalage et un peu d'avance avec l'Espagne, les choses se sont réglées longtemps. Là, on a pris beaucoup de retard parce que l'attitude de Bruno Retailleau, qui a donc instrumentalisé, je dirais, pour des motifs de politique intérieure, la relation entre la France et l'Algérie, en rappelant qu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il n'était pas ministre des Affaires étrangères, a aggravé la crise et l'a très certainement prolongée. Donc maintenant, on est bien dans l'après, après cette parenthèse.
Oui, parce qu'il y avait deux positions au sein du gouvernement, pour rester très clair, celle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui lui plaidait pour une relation apaisée, et celle du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, qui lui prônait la grande fermeté.
Oui, il y a une grande fermeté qui n'a servi à rien, puisqu'on voit bien que les progrès qui ont pu être réalisés l'ont été dans le cadre d'une volonté d'apaisement émis principalement par la France, mais avec l'Algérie qui, elle, a montré des signes positifs, c'est-à-dire des échanges, le retour de l'ambassadeur de France en Algérie, qui était parti un peu plus d'un an, qui avait été rappelé à Paris pendant un peu plus d'un an, et puis la relance de la coopération sur des sujets aussi importants que la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le grand banditisme, évidemment la lutte contre le terrorisme. Mais ça, je dirais que moi, je ne suis que député et président du groupe d'amitié France-Algérie, donc moi je ne connais pas tous les secrets, mais je suppose, je sais que la lutte antiterroriste, elle s'est poursuivie. D'ailleurs, je crois que c'est au moment des Jeux Olympiques en 2024 qu'il y a un attentat qui devait avoir lieu sur le territoire français, qui a été déjoué avec l'aide des services de renseignement algériens. Donc il y a des choses qui ont dû continuer à très bas bruit pour le coup, mais qui ont continué, parce que je pense que c'est une nécessité de coopération sur des sujets aussi graves. Mais c'est certain que les vrais progrès, ils ont été faits notamment dans la lutte contre le narcotrafic, les arrestations récentes le le montre. Et puis la détente au niveau de la problématique, par exemple, des OQTF, avec une réouverture du compteur qui était totalement bloqué.
Donc en coulisses, la coopération se poursuivait, notamment au niveau sécuritaire. C'est ce que vous nous indiquez, Laurent Lardide. Vous êtes député socialiste. La primaire du Parti socialiste est de place publique. Eh bien, ce sera les 9 et 10 octobre prochains, puis les 16 et 17 octobre. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, Philippe Brun, Ségolène Royal sont dans la course. Vous, vous soutenez qui ?
Alors pour l'instant, je ne soutiens personne. J'ai un petit faible, on va dire, pour Raphaël Glucksmann, parce que je trouve qu'il a été celui qui a porté les couleurs du Parti Socialiste à deux reprises lors des élections européennes. Je rappelle quand même que la dernière fois que la gauche, entre guillemets, s'est comptée, hein, puisque en 2024, nous étions dans le cadre d'une union, c'était juste un petit peu avant, au moment des élections européennes, où Raphaël Glucksmann, à la tête de la liste aux européennes, a fait pratiquement 14%, alors que LFI était à moins de 10 et que les Verts, par exemple, étaient à moins de 5. Donc je crois qu'il y a une belle dynamique qui peut s'engager autour de lui sur une ligne qui, moi, m'apparaît la plus clarifiée possible, c'est-à-dire celle de dire qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui, il y a une gauche démocratique et écologique qui existe et elle doit s'affirmer face à une gauche un peu plus destructrice, j'allais dire, qui est celle représentée par LFI. C'est ma position politique, en tout cas aujourd'hui.
Et par Jean-Luc Mélenchon. Donc, dites-vous, cette gauche dont vous souhaitez qu'elle arrive au pouvoir, est-ce que vous pouvez tout simplement nous donner deux mesures emblématiques qu'un exécutif d'une gauche de gouvernement devrait prendre à son arrivée à la tête du pouvoir?
Je pense que la première chose, c'est de faire évoluer la politique économique. On a une politique économique depuis 10 ans qui consiste à vider les caisses de l'État pour soutenir sous forme d'exonération les entreprises. Je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Moi, je pense qu'on a besoin d'une politique de la demande, alors qu'il ne sollicite pas tellement les entreprises, parce que beaucoup d'entre elles sont extrêmement fragiles, et qui consiste à permettre d'avoir un pouvoir d'achat plus important pour les Français. Donc, ça fait partie des propositions que moi, je soutiens, qui sont celles, par exemple, de la baisse de la CSG. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous baissez la CSG, alors il va falloir trouver des ressources, mais on a des idées là-dessus. Vous baissez la CSG, donc vous augmentez le salaire net.
Le salaire net augmente automatiquement, oui.
Voilà, tout à fait, absolument. Donc voilà une mesure pour moi qui est importante, c'est-à-dire de faire une relance économique par la demande, parce que les entreprises sont les premières d'ailleurs à dire aujourd'hui que le marché intérieur est à tonne et que donc il faut que les Français puissent consommer, puissent retourner un petit peu au restaurant, puissent acheter un certain nombre de choses, à commencer par remplir leur frigo, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le contrat social historique français, qui était celui que lorsqu'on avait un salaire, un CDI, ben, on pouvait vivre, aujourd'hui n'est plus vrai, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui a un CDI, ben, il n'arrive pas à joindre les deux bouts, souvent, et il n'arrive pas à remplir son frigo. Donc c'est une mesure centrale du changement qui doit être opéré aujourd'hui en France.
Et entre nous, Laurent Lardide, les citoyens, quand ils voient des candidats comme Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, Gabriel Attal, est-ce qu'ils voient des différences fondamentales lorsque vous constatez qu'aujourd'hui, la radicalité à l'avant-poupe, vous voyez le score de Marine Le Pen au premier tour, oui, celui de Jean-Luc Mélenchon, il y a une envie de radicalité renverser la table. C'est en tout cas ce qui ressort des études d'opinion.
Oui, c'est qui s'exprime effectivement dans une radicalité qui s'exprime à l'extrême droite, dont je continuerai toujours à combattre les idées, et qui s'exprime également à l'extrême gauche, avec des propositions qui, pour moi, ne sont pas crédibles. Donc il y a une nouvelle voie à explorer, à créer, qui est celle d'une relance économique différente en France, qui permette aussi de renforcer enfin nos services publics et puis de faire face à toutes ces charges nouvelles qui vont s'imposer à la France dans les années à venir et qui vont faire que les Français se sentiront protégés. On a besoin d'union et de protection.
Et quelle proposition n'est pas crédible à l'extrême gauche aujourd'hui chez LFI?
L'une des dernières lubies que j'ai entendues, c'est celle de supprimer la dette. Enfin, nous, on a pris le problème dans tous les sens. Si c'était crédible de supprimer partiellement ou complètement la dette, évidemment, vous imaginez bien que des gens y auraient pensé. Si vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous lui dites du jour au lendemain, écoute, je vais pas te rembourser, peut-être que la personne n'aura pas les moyens de, en tout cas, c'est un État qui est en face, donc on n'aura pas les moyens de vous circonvenir. Mais en revanche, demain, lorsque vous allez lui dire, j'aurais de nouveau besoin que tu me prêtes de l'argent, il le fera pas. Donc, et nous savons aujourd'hui que la dette française, on ne peut pas la supprimer du jour au lendemain et que de toute façon, nous avons besoin de recourir au crédit et nous avons besoin de conserver la confiance de ceux qui sont prêts à prêter de l'argent à l'État français.
Et les préoccupations des citoyens, parmi ces préoccupations, il y a bien entendu le logement qui représente une part très importante dépenses des ménages. Cela doit être l'un des thèmes majeurs de la campagne. Quelle proposition, par exemple, claire sur le logement social ?
Le logement social, il faut tout simplement en construire plus. Aujourd'hui, moi je suis dans une région dans laquelle et une métropole, qui est la métropole d'Aix-Marseille, dans laquelle vous avez une majorité de communes qui n'ont pas joué le jeu d'une loi qui a plus de 25 ans maintenant, qui était la loi SRU, qui prévoyait qu'on construise un minimum de logements sociaux à l'intérieur de chaque ville, de manière à ce que les gens qui n'ont pas les moyens sur le marché libre de se loger puissent trouver du logement qui est un peu aidé. Voilà, c'est ça c'est le grand défi. Le grand défi, c'est de relancer le logement social, en sachant que, pour ne pas reprendre l'adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va, on a quand même une économie là qui est puissante en France, qui est très professionnelle, qui est très avancée, qui est prête, qui est l'arme au pied, qui est prête à construire, mais il faut qu'il y ait une volonté politique, et ça je crois que... Mais là, pour le coup, j'en ferai pas un débat entre la gauche et la droite, ou entre l'extrême droite et l'extrême gauche, parce que je pense que tout le monde est conscient de ce problème, et là, pour le coup, je crois que, même si les solutions sont différentes, tout le monde est conscient du problème, et tout le monde a envie de progresser sur cette question du logement en France, qui touche le mal-logement, ou l'absence de possibilité de se loger, touche de plus en plus de gens en France aujourd'hui, quoi.
Quand vous entendez Laurent Lhardit, Jean-Philippe Tanguy affirmait que si Marine Le Pen est élue, eh bien le voile sera interdit dans l'espace public, le port du voile islamique, et que les femmes qui le porteront risqueront une amende. Vous dites quoi ? Que ce n'est pas au niveau d'une campagne présidentielle ?
Alors non seulement ce n'est pas au niveau d'une campagne présidentielle, mais je pense que le RN devrait continuer comme ça, avoir ce genre d'idée pour peut-être perdre le crédit qu'ils peuvent avoir parmi les électeurs qui sont policiers. Parce que quand vous êtes policier aujourd'hui, face à la charge que représente le maintien de l'ordre dans tout un tas de domaines, à commencer par les plus graves aujourd'hui, la lutte contre le narcotrafic, imaginez qu'on ait les moyens demain de dire à des policiers d'aller sur le terrain pour expliquer aux gens qu'en fonction de leur tenue vestimentaire, on va leur sortir le carnet à souche, enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la pure démagogie, mais ça ne nous étonne pas de la part du Rassemblement national.
Merci, Laurent Lhardit.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes député PS des Bouches-du-Rhône, président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale, membre de la commission des affaires économiques et conseiller municipal de Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.